partenaire de Spot 24.
Spot 24.
L'exposition olympique présentée par Paris Je T'aime Office de Tourisme
et le Musée olympique de Lausanne en Suisse.
Jusqu'au 31 décembre 2024, à deux pas de la Tour Eiffel, Spot 24 met à l'honneur les nouvelles disciplines olympiques. Basket, breaking, BMX,
escalade sportive,
skateboard, surf. Avec Spot 24, découvrez un parcours immersif et une programmation inédite entre sport et cultures urbaines.
Disponible sur spot24.com.
L'exposition Spot 24, un événement à retrouver sur move.fr. Move.
Hello l'équipe, c'est So Spencer pour la pluie et le beau temps. Let's go.
Move. Tous les mardis.
19h, 21h.
Move.
La pluie.
Et le beau temps.
La pluie et le beau temps.
Avec So Spencer.
Florence et Leila.
La pluie et le beau temps.
Et bonsoir à tous, on se retrouve comme d'habitude dans votre émission d'actu culture et société. Hein, c'est tous les mardis 19h, 21h sur Move. Je m'appelle toujours So Spencer et je suis toujours avec Florence et Leïla. Ça va ou
pas? Salut, comment ça va toi?
C'est la pluie, pluie, comme ça on est fatigué. Pluie tous
on
les jours, pluie.
Plus.
Oh là là.
Mais le beau temps avec nous, vous inquiétez pas.
Le beau temps est dans ce studio. Mais le beau temps n'est pas.
C'est nous,
n'est
le
pas
beau
dehors.
Temps.
On n'en peut plus vraiment. Allez, on est là pour débriefer de l'actu. Alors comme tous les mardis, on va passer 2 heures ensemble. Vous pouvez nous écouter mais aussi nous regarder en direct sur Move. Au menu de l'appui et le beau temps aujourd'hui, la fête des mères, c'était ce dimanche 26. Alors c'est l'occasion pour nous de nous pencher sur les origines et aussi les mauvaises habitudes de cette fête. Justement Florence, tu vas nous expliquer pourquoi il ne faut pas confondre cette fête avec la fête des ménagères.
Exactement.
Et aujourd'hui, si elle est aussi appelée la fête de ceux qu'on aime, c'est parce que tous les modèles familiaux ne se ressemblent pas. Et là, les belles-mères ont aussi leur place.
Ouais, du coup on va parler des belles-mères qui sont souvent invisibilisées. Et vous verrez que du coup, être mère c'est assez ingrat, mais être belle-mère encore plus.
Aïe aïe aïe. Le biopic de Johnny Hallyday a officiellement été annoncé pour 2026. Les fans l'attendent au tournant, hein. C'est un film qui va retracer sa vie, une vie pleine d'excès et de soucis de santé qui l'auront finalement mené à sa mort en 2017. Johnny, ça a été l'idole de toute une génération, mais bien souvent on réduit ses fans les plus impliqués à des beaufs. Alors est-ce que ce terme est pertinent? Est-ce qu'il cache une forme de mépris social? On va en parler tout à l'heure. C'est officiel, les femmes au volant sont moins dangereuses que les hommes et c'est pas moi qui l'invente, attention. Selon l'Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière, 84%, j'ai bien dit 84% des accidents mortels de la route sont causés par des hommes. Flo, tu vas répondre à ce fameux cliché, tu sais, femme au volant égale mort au tournant.
Et aussi à la légende urbaine qui dit que les hommes avec un petit pénis ont des grosses voitures et ça va faire couler beaucoup d'encre.
Ah là là, toi Leïla, tu vas nous dire si tous ces stéréotypes de genre influencent vraiment les taux de réussite à l'examen du permis.
Exactement.
Le printemps des cimetières, c'était ce week-end. Alors c'est l'occasion pour nous de nous intéresser au patrimoine funéraire et aussi à l'univers de la mort. C'est un sujet qui est encore tabou aujourd'hui. Avec plus de 600 000 décès enregistrés en France en 2023, on va voir que la mort et surtout la douleur de la perte d'un être cher, ça représente un coût mais aussi un business sur lequel certains ont choisi de se tourner. Tout ça, c'est dans la pluie et le beau temps. C'est parti, let's go.
19h-21h.
La pluie et le beau temps.
Ce dimanche, c'était un jour spécial parce que c'était la fête des mères. Alors en France, la fête des mères, elle est célébrée tout le temps à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin, en fonction de la date de la Pentecôte. Mais est-ce qu'en vrai, vous connaissez ses origines?
Il y a des gens qui disent que c'est le maréchal Pétain qui l'a instauré en France, non?
Alors en fait, c'est pas exactement lui qui l'a créé, mais ouais, en fait, il l'a instauré le 25 mai 1941 en France. Et à la base, c'était même la journée nationale des mères. Alors ça, c'est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, le 24 mai 1950, très exactement, je suis précise aujourd'hui. C'est l'ancien président Vincent Auriol qui a dévoilé un texte de loi qui a officiellement instauré la fête des mères le dernier dimanche de mai. Mais en fait, à la base, qu'on soit clair, la fête des mères, ça tient ses origines dans une histoire bien plus ancienne. En fait, déjà dans l'Antiquité, au printemps, on fêtait chaque année les divinités mères des dieux avec la fertilité et la renaissance de la nature. Du côté des Grecs, on célébrait du coup Rhea, la déesse de la maternité. Chez les Romains, on célébrait Matronalia.
La mater, la maman,
en l'honneur des mères et des femmes. Donc en fait, c'est vrai que le maréchal Pétain, il a rien inventé, mais chaque année, une petite attention, en vrai, ça fait plaisir à nos madres. Vous avez offert quoi à vos madres?
Alors moi, à ma madre, depuis que je suis toute petite, fête des mères, petit bouquet de fleurs, petit déj.
Ok, mignon, okay, sympa. Et toi?
Alors, mais moi j'ai une excuse. En gros, le dimanche, j'avais mon spectacle.
Ok,
de...
elle a rien fait.
Trop de palabres.
Alors
t'as rien
moi,
fait.
Je vous explique.
Dis la vérité.
Mais je pouvais pas, j'étais pas là. Bon, bref, et toi?
Un petit message.
Un message, quand même.
Ok. Bah moi j'ai fait une surprise à ma madre.
À ma madre.
Elle habite pas à Paris. Je lui ai fait livrer un bouquet. chez elle, à domicile. Et en fait, j'ai appelé une de mes très très bonnes amies d'enfance. Je lui ai dit, s'il te plaît, je t'envoie en mission. Tu te caches, tu lui poses le bouquet. T'as compris, hein, genre en mode admirateur secret. Et tu la filmes. Mais non, ma mère, dans la vidéo, elle sort. Ma pote, elle dit, bonjour.
Déjà, c'est quoi ce truc? Genre, tu te caches et tu la filmes.
En fait, tu vois, au début, elle essaie de se cacher. Après, ma daronne, elle la voit direct. Elle dit, salut.
Mais encore, ça aurait pu mal tourner. Ta mère, elle aurait pu se dire, mais c'est qui là devant?
Non, mais j'avais dit, tu fais un mot, tu vois, avec mon nom et tout. Du coup, elle était trop émue.
Trop mignon.
Je sais qu'elle m'écoute. Donc, encore bonne fête à toi, parce qu'elle était trop contente avec son bouquet et tout.
Ah, trop chou.
J'avoue, je l'ai fait voyager.
Mais bonne fête et je vais me rattraper bientôt. Hein. Faut
lui faire un brunch comme Leïla, tu vois,
voilà,
un petit déjeuner, tout ça, tout ça.
On cuisine pas, hein, parce que. Tu vas lui faire quoi, des pâtes?
Ça va aller.
Des pâtes crabes.
C'est mieux, tu lui fais un collier de pâtes. Parce que.
Mignon le collier de pâtes.
En tout cas, quoi qu'il arrive, peu importe le cadeau, en réalité, les mamans, elles sont toujours comblées, parce que ce qui compte, c'est le geste. On est d'accord. Et c'est pas les mamans interviewées au micro de TF1 qui vont nous dire le contraire, on les écoute.
J'ai toujours été émerveillée par ce qu'ils m'ont offert.
Oh.
Voilà, ouais, je suis maman parfaite, n'est-ce pas?
Ah non, je peux pas lutter.
Oui, moi non plus. C'est toujours bon goût et bon choix.
J'ai toujours apprécié tous les cadeaux, donc c'est le geste qui compte.
Bah, c'est ça, mignon. Se voit, la reçue d'aspirateur.
Ouais.
Je te jure, c'est le geste qui compte. C'est les enfants, c'est l'attention, c'est l'amour. Et c'est vrai que toujours concernant cette fête, je voulais vous faire part d'un changement, les filles. Maintenant, en fait, dans certaines écoles, on célèbre plus la fête des mères ou même la fête des pères. On dit plutôt la fête des gens qu'on aime. Est-ce que vous savez pourquoi?
Bah, pour être plus inclusif, du coup.
C'est ça. En fait, depuis quelques années, il y a plein d'établissements qui ont décidé de changer les codes pour inclure les petits qui ont perdu un parent ou bien qui sont issus de familles monoparentales, recomposées ou même homoparentales. Donc le concept, il a évolué, certes. Après, ce qui reste, bien sûr, ce sont les cadeaux qu'on offre aux personnes qu'on aime.
Oui.
Et quand il s'agit de fêtes liées aux femmes, et on en a déjà parlé pour la fête des droits des femmes, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Flo, il y a certaines marques qui continuent de les confondre avec la fête des ménagères.
Ah mais attends, c'est le festoche annuel de la publicité sexiste.
Okay.
Et on remercie chaleureusement le compte Instagram Pépite Sexiste de nous dévoiler la line-up tous les ans. Donc, sur la scène principale, on avait les promotions sur l'électroménager avec des artistes comme Conforama, Darty ou encore Leclerc qui ont fait pas mal de boucans en pensant qu'acheter un aspirateur à sa mère, ça pouvait être une bonne idée.
Non mais attends, j'ai pire. Pour aller avec ça, il y avait aussi des offres sur des nettoyants pour les chiottes ou même des sacs poubelles.
Complètement lunaire.
C'est une dinguerie.
Alors qu'évidemment, pour la fête des pères, on nous bassinera pas avec tous les prix cassés sur les robots cuiseurs, mais en fait ça montre à quel point en 2024 c'est encore ancré que le ménage, voilà, c'est une affaire de bonne femme. On a aussi des publicités assez sales sur les produits beauté, histoire de rappeler qu'après la vaisselle, faut se faire belle.
Ah.
Et moi la question que je me pose, c'est comment ce genre de pub ça peut persister, tu vois? Mais en fait c'est tout con, c'est juste que les gens en profitent pour augmenter leur pouvoir d'achat, donc c'est pas pour offrir finalement, et c'est quand même rassurant de se dire que la pub sexy ça fait pas vendre mais qu'on est juste pauvre, quoi.
Mais d'ailleurs tu sais qu'il y a un sondage du magazine LSA qui dit que le cadeau le plus redouté des mères pour leur fête, c'est le fer à repasser.
Je trouve que c'est limite pire que d'oublier, tu vois. Alors force à celles qui en ont reçu dimanche. Vous, c'est quoi le pire cadeau que vous ayez fait à votre mère?
On en a parlé tout à l'heure, en off. J'ai envoyé un message à ma mère, je dis c'est quoi le pire cadeau? C'est pas, elle m'envoyait là les photos des cadeaux que j'ai fait. Un petit cadre en carton, un petit pot peint, je devais avoir 7 ans, 8 ans, ils sont trop moches. Mais en vrai,
moi aussi, tous les trucs moches comme
de
ça,
l'école.
Et puis même des fois, je me disais, j'en ai pas fait assez à l'école, je vais refaire du collage chez moi, des trucs,
c'est
des photos
créativité.
Que j'ai gâchées en coupant et tout.
C'est l'art plastique.
Mais même, ça doit avoir son petit charme, tu
vois. Bah, la preuve, ma mère, elle les a encore, j'ai 30 ans.
Ouais. Mais elle t'envoie des messages pour te dire que ça, c'était pas fou.
Ouais, bon. Je dis, c'est quoi
elle
le pire?
Elle se dit, avec du recul.
Pas ouf.
C'est pas ouf.
C'est grave la boîte pour se moquer de toi, en fait. Mais bon.
Toi, c'est quoi?
Et moi, c'est le fameux galet, là, avec le prénom. Le mien trop long à écrire, donc il y a juste marqué Flo.
Flemme.
Truc de la flemme. Mais en tout cas, en grandissant, j'ai vraiment pris conscience que le meilleur cadeau qu'on puisse faire, c'est de leur offrir du temps.
Ouais.
Et surtout de politiser cette fête, parce que là, la fête des mères, c'est quoi? C'est célébrer la figure d'une mère idéale en la récompensant pour ses sacrifices, alors que ce qu'on appelle sacrifice, c'est toute une condition sociale qui devrait être un sujet, en fait.
Ouais. Clairement, en fait, être mère, c'est une situation qui renforce les inégalités.
Non, mais complètement. Déjà, on peut parler du fait que ça renforce les inégalités économiques. Être mère, c'est un risque plus fort de s'appauvrir. Faut savoir qu'après la naissance d'un bébé, les mères perdent 200 euros de salaire en moyenne et 2 femmes sur 10 se retrouvent sans emploi. Et ça parce qu'en fait, elles font face à des discriminations sur le marché de l'emploi, comme des mises au placard par exemple.
Alors que ça, c'est seulement 4% des hommes qui se déclarent sans emploi après la naissance d'un bébé.
D'autant c'est plus rien. Que, ouais, je sais pas si vous savez, mais la maternité, ça renforce aussi les inégalités dans le couple. Le moment de la grossesse, en fait, c'est pour beaucoup de femmes le début des violences conjugales. Ça s'explique parce qu'en fait, c'est une période où les femmes sont particulièrement vulnérables et qu'elles deviennent souvent aussi le centre de l'attention, chose que l'auteur des violences ne supporte pas. En tout cas, ça concerne 1 femme sur 10, c'est énorme. Sinon, au-delà de ce danger, il y a également des femmes qui meurent de devenir mère. Même si on est de plus en plus alerte sur la dépression postpartum, bah en fait, on se rend pas forcément compte que cette détresse, elle peut aller super loin. Mmh. Le suicide, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes mères.
Ben, c'est ouf. Mmh. Tu sais qu'il y a aussi énormément de femmes qui meurent de causes liées à la grossesse.
Mmh. Ouais, et toutes ces inégalités, elles sont décuplées pour les mères qui en plus sont discriminées pour d'autres raisons.
Mmh. Bah ouais, comme les mères migrantes, les mères SDF, etc. On pense aussi aux mères qui n'ont pas leur place dans l'espace public parce que être mère handicapée, bah c'est pas pratique, ne serait-ce que pour prendre les transports, tout comme être mère et voilée et se voir refuser une sortie scolaire, par exemple. Mmh. Bref, la liste, elle est encore super longue, mais on va finir par adresser une pensée à celles à qui on empêche d'être mère, comme les personnes trans qui sont exclues du parcours PMA. Et par avance, pour l'année prochaine, on vous souhaite à toutes moins d'ustensiles et plus de droits.
Pas de fer à repasser,
si
c'est bon.
Voilà,
c'est pas d'aspi. On a déjà parlé de la précarité des enfants qui sont à la rue. Mmh. On l'avait déjà dit, il y a 3 millions d'enfants qui vivent en situation de précarité et 30 000 enfants se trouvent SDF avec leur maman. Mmh. Du coup, j'ai regardé ce qui se fait aujourd'hui et pour aider certaines mamans en situation de précarité, il y a l'association Ma Mama, donc Ma Mama, qui est née de la mobilisation de bénévoles de l'APHP et aussi de la Croix-Rouge. Et donc, eux, ils viennent en aide justement aux mères en grande difficulté, à leurs nourrissons et à leurs enfants.
Trop cool.
Ça, ça a le mérite.
Ça, c'est un beau cadeau. Ouais, pour ceux comme moi qui n'ont pas encore, qui doivent se rattraper, voilà.
19h11, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps, on vient juste de commencer. Hein, c'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société. Pour la suite du son, on va rester dans le thème et du coup j'ai choisi un énorme classique de 1995. C'est une déclaration d'amour à une mère combattante, une ancienne membre des Black Panthers. Bien sûr, je parle de Tupac qui rendait hommage à sa mère Afeni Shakur, elle aussi une grande dame. Tupac, Dear Mama, c'est tout de suite sur Move et ça sera suivi de Franglish Position. À l'instant.
When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day, running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Dear mama,
place no one above you, sweet.
You all appreciate it.
Don't you know we love you?
Now ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out, started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate.
just working with the scraps she was given. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone. You're trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Baby, don't you know we love you, sweet.
And dear mama,
lady, please, no one above you, sweet.
You all appreciate
baby,
it. Pour some liquor and I reminisce. Cause through the drama I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me. And all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. There's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Baby, don't you know we love you, sweet.
Dear
lady,
mama,
place no one above you, sweet.
You all appreciate
it. Baby, don't you know we love you, sweet.
And dear mama,
joli loqueton, danse pour moi, oui, fais-moi cadeau. Y'a personne en face, trop d'avant. J'ai un tout, ils sont restés dans mon dos. J'ai les plugs, mamie, j'ai les clés. Tout ce qu'il faut, j'ai très gros réseau. Tout va bien, faut pas t'inquiéter, bébé. J'suis dans ça, tu connais. Mon garçon, la porte, si c'est fermé. C'est la banque que j'ai remontée. Elle aime quand ses bras sont dans la nuit. Oh, baby, je vais t'emmener. Mon garçon, la porte, si c'est fermé. C'est la banque que j'ai remontée. C'est toi, mais je viens te chercher. Pour la monnaie, faut se lever, et toi.
Alors,
pour ma femme, faut le haut niveau.
Ben oui.
Ma chérie, j'aime pas les blèmes propres.
J'aime pas.
Elle voudrait que je sois son Roméo.
Position.
Je réfléchis. J'y pense. Je réfléchis. J'y pense. Partout, comme à la maison. J'suis prêt, comme seul en béton. Pas d'échec, y'a que des leçons. Baby veut manger maintenant.
Alors,
on va pouler pas de sang. Y'a personne qui fait semblant. Bélier, on te rend dedans. Moi si je pars, je fais. Pour la monnaie, faut se lever et toi.
Alors,
pour ma femme, faut le haut niveau.
Ben oui.
Ma chérie, j'aime pas les blèmes propres.
J'aime pas.
Elle voudrait que je sois son Roméo.
Position.
Je réfléchis. J'y pense, je réfléchis. J'y pense,
pour la monnaie faut se lever et toi.
Alors, pour ma femme faut le haut niveau.
Ben oui.
Ma chérie j'aime pas les blèmes pro.
J'aime pas.
Elle voudrait que je sois son Roméo.
Position.
Je réfléchis. J'y pense, je réfléchis. J'y pense, je réfléchis. J'y pense, j'y pense.
C'est vraiment la traîne du moment, hein. Franglish position à l'instant sur Move.
La pluie et le beau temps.
La pluie et le beau temps.
Il est 19h19 tout pile et vous écoutez toujours La pluie et le beau temps et c'est toujours l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société sans tabou. Alors dimanche c'était la fête des mères, on a donc choisi de s'intéresser à cette fête. Et d'ailleurs je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, certaines écoles en France ont décidé de l'appeler la fête de ceux qu'on aime pour inclure les petits qui ont perdu un parent ou qui sont issus de familles monoparentales, homoparentales ou recomposées. Et d'ailleurs en parlant de ça, hein, j'ai un chiffre. Selon l'INSEE en France en 2019, on comptait environ 800 000 beaux-parents dans 720 000 familles recomposées et 27%, c'est c'est le chiffre qui désigne les beaux-parents, qui sont des belles-mères. Et c'est vrai que le rôle de belle-mère, il n'est pas toujours reconnu. Et pourtant, bien souvent, certaines belles-mères s'occupent des enfants de leur conjoint comme leur propre enfant. Léla, aujourd'hui, tu as voulu t'intéresser à ce statut, ouais, les belles-mères.
Exactement. Et ce chiffre, en fait, il inclut pas les belles-mères sans enfants. Donc, okay, il est vachement faussé. Et elles sont plus nombreuses parce que les hommes se remettent plus souvent et plus vite en couple avec, que leur ex-conjointe, pardon. Et ce dimanche, du coup, c'était la fête des mères. Et moi, à chaque fois, j'essaie d'envoyer un message aux mamans de mon entourage pour leur souhaiter. Et cette année, j'ai pensé à une de mes amies qui est belle-mère. Et du coup, ça m'a inspirée pour aujourd'hui parce que c'est un rôle pas facile à tenir, dans le sens où j'imagine que c'est compliqué de trouver sa place quand de base, il s'agit d'une histoire d'amour banale qui prend un tournant très sérieux en impliquant des enfants qui sont pas les leurs. Est-ce que vous pourriez vous mettre avec un mec qui a des enfants?
Moi, j'ai déjà fait et je trouve qu'au contraire, ça dit quelque chose aussi de lui d'un peu cool et rassurant.
Enfin, je sais pas comment expliquer, comment il s'en occupe. Hein.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Avant, quand j'étais plus jeune, j'étais là, genre, mais c'est mort et tout.
Ah ouais,
tu te dis, ça va être une charge. T'es jeune, tu vois. Ouais. Après, en grandissant, déjà, de un, tu choisis pas de qui tu tombes amoureuse, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'en vrai, c'est grave un indicateur. En vrai, oui, tu vois, parce que tu te dis, s'il s'en occupe bien, ça pourra être un bon père. Mmh. Ça montre son côté responsable,
et aussi
son côté
sa
mature.
Avec l'ex. Ses enfants.
Ouais. Mais par contre, attendez, j'arrive. Maintenant, il y a une condition, c'est que l'ex, ça soit vraiment une ex. Ouais. Parce que les ex, la bancale, on n'est pas dans ça. T'as vu, déjà, tu rentres, t'as une
on
position difficile. T'as vu, mais si c'est clair, net, précis, franchement, ouais. En vrai, de vrai, ouais, tu vois. Et du coup, moi, j'ai une autre question. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on a tendance à avoir une mauvaise image des belles-mères. T'es d'accord ou pas?
Oui, rien qu'avec l'image qu'elles ont dans des contes comme Cendrillon, Blanche-Neige ou Hansel et Gretel. En fait, ça alimente l'image négative liée à la figure de la belle-mère. Et aujourd'hui encore, en fait, elles traînent une mauvaise réputation. On les désigne, pardon, comme étant des marâtres, des briseuses de couple, des étrangères, des sorcières.
Et dans la... Tout ça.
Et dans la société, du coup, elles sont placées dans des situations de rivalité, que ça soit avec leurs conjoints, leurs ex ou les enfants d'une première union. Et on va toujours avoir peur qu'elles éloignent un père de ses enfants, par exemple, en le manipulant. Et en fait, une grande majorité des mères aussi, elles tolèrent très mal que la belle-mère prenne leur place auprès de leurs enfants. Et elles sont souvent, les belles-mères sont souvent invisibilisées et des questions se posent sur leur place au sein d'une famille. Est-ce que vous avez des beaux-parents? Et comment ça se passe? Enfin, est-ce que vous avez eu ou vous avez?
T'en as, toi?
Moi, j'en ai pas, mais dans ma tête, je me suis toujours dit que j'aimerais bien. Mais pas pour moi, mais plus pour aussi ma mère, tu vois.
Ouais.
Tu vois, un truc de.
Après, je pense aussi que c'est plus simple d'être un beau-père que d'être une belle-mère.
Ouais, sûrement.
Je sais pas.
Moi, je pense.
Ah, je sais pas.
Moi aussi, je pense.
Il y a tout ce truc de maternité qu'on te pose sur les épaules quand t'es belle-mère. Qu'on posera pas forcément sur les épaules.
La relation avec la mère, elle est tellement particulière. Oui. Peu importe si elle est bonne ou mauvaise, il y a quand même un truc de. Je sais pas.
Moi, j'ai une belle-mère. Franchement, je l'aime trop. C'est genre ma deuxième mère. Mais après, je la connais depuis que je suis toute petite. Donc en vrai, j'ai grandi avec elle. Elle est douce. Tu vois.
Ouais.
Donc j'ai jamais eu de problème. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des belles-mères où c'est pas trop ça. Par exemple, je vous raconte ma life.
Non,
ma grand-mère maternelle, sa maman était décédée quand elle était toute petite. Et son papa s'était remarié. Donc elle avait une belle-mère. Mais elle l'a toujours appelée la marâtre. De son vivant, ma grand-mère m'a toujours parlé de cette marâtre qui avait fait grave des différences entre ses enfants et elle, tu vois. Et ça, c'est typiquement ce que tu disais dans les Disney.
Ouais, dans Cendrillon, c'est ça. Hein.
Ouais, ouais. Mais du coup, où est-ce qu'elle se positionne, ces belles-mères? Parce que quand elle se préoccupe trop de l'éducation, on dit qu'elle dépasse les limites. Quand elle décide de pas s'en mêler, on leur reproche de pas être assez présente pour l'enfant. Elles font quoi? C'est comment?
Du coup, cette incertitude, elle est renforcée aussi par toutes les injonctions contradictoires qui reposent sur les femmes. On attend d'elles qu'elles prennent naturellement soin des enfants et qu'elles soient maternantes en leur... tout en leur interdisant, par exemple, de se prendre pour leur mère. Et puis, en fait, les relations de père avec leurs enfants après une séparation, elles changent. En général, les modalités de garde, elles font que les pères les voient moins. Donc, ils sont soucieux aussi de la qualité du temps passé avec eux. Et ils sont moins focalisés sur la discipline, etc. Et parce qu'ils vont vouloir éviter... tout ce qui est conflit, punition, bête, entre guillemets. Alors que les belles-mères, elles vont un peu avoir le mauvais rôle et elles vont avoir le rôle de l'adulte un peu responsable. C'est elles qui vont rappeler que c'est l'heure du bain, tu vois, des trucs un peu chiants, que c'est l'heure d'aller ranger une chambre. Parce qu'en gros, comme dans les familles nucléaires, comme on les appelle, donc père et mère ensemble, la charge mentale, c'est souvent une histoire de femme, quoi.
Et du coup, comment on les revalorise?
Déjà, je pense que pour commencer, il va falloir s'interroger sur les représentations sociales qui entourent les hommes et les femmes dans les couples hétéros. parce que c'est pas aux femmes de porter la charge de leurs beaux enfants et c'est pas non plus à elles de porter la responsabilité de la séparation d'un couple. Et je trouve pour qu'on arrête de le voir, enfin pour qu'on arrête de les voir un peu comme des briseuses de couple, des briseuses de famille, etc. Je trouve que c'est aussi aux hommes d'assumer déjà leurs kids, mais aussi leurs nouvelles histoires d'amour.
Mais clairement, déjà elles ont rien fait, elles ont rien demandé. Bah, elles arrivent souvent après la guerre, tu vois.
Oui.
Elles veulent juste se poser tranquille. Ah, c'est pas des briseuses de couple. Bon après il y en a, c'est des briseuses de couple. Il y en a, elles étaient là avant, mais c'est pas le cas de.
Et c'est la faute du père, hein, désolé.
Ouais, oui. Ouais. Et ça c'est la faute du père grave. Vous savez, j'ai découvert un podcast en préparant cette émission qui est trop bien. Ouais. Il s'appelle Belle-mère épuisée et il a été créé par le média Parents épuisés. Et du coup, bah, dans ce podcast, ils mettent en avant des belles-mères qui ont envie de se confier sur ce rôle particulier auquel on n'est pas toujours préparé. Mmh. Et du coup, on écoute le témoignage de Sabrina. Elle s'est retrouvée face à une petite fille, mais l'horreur, à une petite fille qu'il n'aime pas. Parce qu'en fait, sa maman ne l'aimait pas. Non, j'ai écouté le podcast, il dure une heure. Et en fait, l'ex, elle a le seum. Tu vois, mais genre un seum. Et donc,
mais
elle a montré la tête.
Est-ce que ça se comprend un peu? Genre
non mais flemme des
étrangers. Non, moi je trouve que c'est humain de se dire oh là là, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de mon enfant, mais en tant qu'adulte, t'es censé te dire rien montrer à mon enfant, tu vois.
Ouais, mais t'as vu, déjà moi je trouve qu'il faut faire preuve de maturité parce que tu sais pas, cette personne là, elle s'occupe peut-être aussi très très bien de ton enfant, tu vois.
Oui, non mais moi je parle pas de ça, mais je trouve que ça peut être humain de se dire ouais, en fait, ça me saoule, genre je suis un peu jalouse et tout que mon enfant il ait une relation privilégiée avec quelqu'un d'autre.
Je peux comprendre.
Mais je trouve que le dire à l'enfant, dire ah un tel j'aime pas machin, je trouve que ça c'est un truc de fou,
bah
tu
oui,
vois,
c'est
hyper malsain. Ouais. Et surtout que je pense que de voir le père malheureux, c'est encore pire pour l'enfant que ça dans une
et
bonne
moi
situation.
J'aurais trop peur d'être méchante avec une meuf qui a genre ma vie, mon enfant entre ses mains,
mais
tu
mais
vois.
Mais c'est ça, sois intelligente meuf, tu
genre, je me dirais mais si moi je la traite bien, elle va super bien traiter
exactement.
Mon enfant.
Surtout qu'en plus si tu fais bien les choses, l'enfant n'oubliera jamais qui est sa maman. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais surtout que c'est pas parce que t'as une belle-mère que t'as plus de mère, quoi.
C'est ça, tu vois. Donc, elle parle justement, pour le coup, cet ex-là, elle avait le seum par rapport à son ex, qui lui a fait sa vie, tu vois. Et du coup, Sabrina, elle parle de ça et elle parle de la place de l'ex, la mère de l'enfant, qui est aussi souvent problématique dans les nouveaux couples et les familles recomposées. On l'écoute.
J'avais coutume de dire qu'on vivait en trouble. Parce qu'il y a un moment, c'était 110 messages par jour, des appels incessants, des mails, des textos, et puis voilà. Enfin, moi, j'ai passé des soirées au restaurant avec mon mec où il lui répondait sur son téléphone et je me disais mais c'est pas possible en fait. J'ai un moment, on est tous les deux, tu déposes ton téléphone, tu lui répondras demain. Ouais, on est trop, il y a une personne de trop. Enfin, voilà, donc ouais, ça a été difficile à gérer aussi.
Donc ça, tu t'y attendais pas et personne t'en avait parlé. T'avais pas d'exemple autour de toi de gens qui avaient vécu ça ou toi-même en tant qu'enfant.
Non, j'avais aucun exemple.
Elle, pour le coup, c'est exactement les cas de figure dont tu parlais. Elle avait pas d'enfant à la base.
Ouais.
Et donc, elle arrive, elle est trop contente. La petite, elle avait 4 ans. Elle se dit, bah, c'est trop mignon et tout.
Ouais.
Vous savez, elle a fait quoi la première fois qu'elle a vu la petite? En fait, le mec, il les a ramenés au resto. Et la petite, elle a dit à son père, papa, je vais aller aux toilettes, je vais faire caca. Ok, maintenant son père il dit vas-y on y va. Elle dit non, c'est elle qui va m'emmener aux toilettes. Donc en gros premier truc, elle me torche le cul. Du coup en fait elle annonçait la couleur
symbolique.
La gamine elle est trop intelligente. Elle a dit toi je vais te mettre
je
dans la merde.
Elle a fait à côté. Ouais. Elle a regardé comme ça, maintenant tu ramasses.
Le cauchemar.
Franchement force à toi Sabrina si tu nous écoutes. C'est
j'espère
pas facile.
Que ça s'est résolu. J'espère que cette petite fille a grandi et qu'elle réalise.
Elle a grandi, mais dans l'épisode, elle est en mode « Hey, quand elle est pas là, je suis au top !»
Oh non, c'est horrible.
Mais elle en peut plus, pas te dire au daron,
ouais,
tu vois.
Tu peux pas. Bon, elle est partie faire un podcast quand même. Elle est partie faire
un podcast. Elle dit dans le podcast, elle dit « J'espère qu'elle m'a pas écouté !» Après, ils ont eu un enfant. Du coup, bah, ils ont eu un enfant à deux.
Ouais.
Et la gamine, elle est hyper jalouse. Hé, hey, cauchemar. Hé, hey, c'est pas cauchemar en cuisine, c'est cauchemar en famille recomposée.
Cauchemar en vie.
Cauchemar, hey, c'est une dinguerie. Bon, en tout cas, grosse dédicace aux belles-mères qui s'occupent bien de leurs beaux enfants, comme de leur propre progéniture. Dédicace aussi aux belles-mères impliquées, les tatas, les marraines, les amis proches, celles qui ont fait office de maman pour ceux qui n'en ont plus. Et moi, je dis une grosse dédicace à Kumba, du coup, qui est ma belle-mère.
Ah,
on fait un bisou à Kumba, s'il vous plaît.
Bisous, Kumba.
Bisous, Kumba. Voilà, c'est ma gossure. 19h28, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps et c'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société. La suite du son, c'est Vakra Confidence sur Move. On revient dans un instant.
Pareil que t'es là depuis le début. Ceux qui me disaient que je ferais qu'un tube allait vous faire. Le nouveau bébé s'appelle Big Malion. Je fais avec ce que je vois en dehors des applications. J'ai pas changé de numéro, mais j'ai changé de contact. Même en changeant de relation, j'ai fait le même constat. Je te régale en soirée, pas plus du sans contact. Jamais, jamais, je paye la place de parking avant la gaga. Je fais pas les choses à l'envers, moi je suis pas yayada. Voilà, bosse sur mes nerfs, pas dans les confidences. Hein. T'achètes les plus grosses bouteilles de la boîte, mais c'est pas autour toi qu'on danse. Hein. T'étais pas là pour moi maintenant, paye les conséquences. Hein. Voilà, bosse sur mes nerfs, pas dans les confidences.
C'est ma meuf potentiellement, mais tous les mecs rêvent de la dégomme. Ça fait full black comme à l'enterrement. On va te bannir et tu vas dézoner. Financièrement tout va yo, je passerai bien l'été sur un yacht. Mais je préfère bosser, faire des hits. Et comme moi y'en a sûrement d'autres. T'es dans un film ou dans une fiction. Reviens parmi nous. Tarakli a manque d'affection. Je sais pas moi parlez-vous. Elle touche ma cuisse, t'es sous la table. Elle a commandé toute la carte. Mais c'est elle que je vais manger à la zone. On va faire ça dans tout l'appart. T'as marqué 9 dessous la plaque. Tu sais déjà qu'il y a des cheveux sous le pied.
Voilà, bosse sur mes nerfs, pas dans les confidences. T'achètes les plus grosses bouteilles de la boîte, mais c'est pas autour toi qu'on danse. T'étais pas là pour moi maintenant, paye les conséquences. Voilà, bosse sur mes nerfs, pas dans les confidences.
Vacra Confidence, à l'instant sur Move.
La pluie et le beau temps.
La pluie et le beau temps.
Les filles, il est 19h30 pile. On a réussi. Vous savez que je suis un peu maniaque, j'ai un peu des tocs sur les heures. Du coup, bref, vous êtes toujours en direct de La Pluie et le Beau Temps. C'est les dos qui débriefent toute l'actu culture et société. La semaine dernière, on vous a parlé du Festival de Cannes. Mais ce qu'on vous a pas dit, bah, c'est qu'en marge de ce festival, Universal Pictures International France a annoncé la sortie officielle du biopic de Johnny Hallyday. Il est décédé en 2017. Et d'après nos infos, le film aura lieu dans les années 90. Et justement, ce sera l'acteur belge Mathias Schoenaerts qui a été choisi pour incarner Johnny. Alors le film il est réalisé par Jalil Lesper. Jalil Lesper c'est l'ex de Laetitia Hallyday puisqu'il est resté 3 ans avec elle après le décès de Johnny Hallyday.
Ah mais Johnny et Laetitia c'est une sacrée histoire.
Ça tu l'as dit. Et justement bah, le biopic il va beaucoup se pencher sur cette fameuse histoire d'amour entre Johnny et Laetitia. Cette histoire elle a commencé en 95 à Miami. Alors pour ceux qui savent pas, je refais un petit peu la story. Laetitia c'est la fille d'André Boudou qui côtoie de très très près Johnny hein, c'est un homme d'affaires. En 95 Laetitia elle a 20 ans, Johnny il a 52 ans, tout va bien et c'est le coup de foudre entre eux. Et du coup Johnny lui dit qu'il veut vieillir avec elle, etc. C'est elle la femme de sa vie. Et le 25 mars 96, il se marie à Neuilly-sur-Seine devant le maire de la ville qui était à l'époque Sarkozy.
Monsieur Jean-Philippe Smet, consentez-vous à prendre pour épouse, et vous mademoiselle Laetitia Marie-Christine Boudou, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Jean-Philippe Smet ici présent? C'est un peu sourd, mais c'est suffisant.
J'ai revu les images aujourd'hui. Elle est si jeune, pas du tout. Ah, pas du tout. Elle est si jeune.
Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Vous imaginez vous marier avec un pote de votre daron.
52 piges, j'étais en avant.
Genre là, tu vas dire à ton père, j'ai rencontré quelqu'un, c'est l'amour de ma vie. Mais bon, je le connais depuis longtemps. Lui va se dire, ah, elle le connaît de la maternelle. De la primaire, du lycée.
C'est une dinguerie.
Et on va rien dire.
non, en vrai, et tu vois dans les images, elle est tellement amoureuse, elle est même mignonne, tu vois, elle est là, genre. c'est même genre lui.
Tout ça pour vivre des trucs de fou.
Tout ça grave. Pour vivre des trucs de fou, et c'est pour ça que j'en viens à la suite. Merci Flo pour cette passe des incroyables. Parce qu'on sait, pas qui va jouer Laetitia Hallyday encore, mais par contre, le film va beaucoup évoquer les démons du couple. Et justement, à l'époque, Laetitia, elle était anorexique. Johnny, à ce moment-là, il est rongé par des problèmes d'alcool et de la drogue, par exemple. On sait qu'il y aura justement une scène où Laetitia va jeter les sachets de cocaïne de Johnny dans la mer.
J'espère qu'on verra aussi les moments marquants de sa carrière, par contre.
Bien évidemment, on parle quand même de Jean-Philippe Smets. On parle quand même de la plus grande star de tous les temps. Alors le film va montrer ses grands moments comme le concert mythique du Stade de France en 98. On va aussi voir son rendez-vous raté avec Las Vegas, chose qui ne s'est jamais faite finalement. Et Johnny, c'est quand même 57 ans de carrière. On parle quand même de 60 ans en fait. Hein, 60 ans, c'est le chanteur francophone le plus célèbre et c'est aussi une des personnalités les plus présentes dans le paysage médiatique encore aujourd'hui, 7 ans après sa mort. Hein.
Ah mais son décès, ça va être un deuil national.
Laisse tomber.
Vous étiez où vous?
J'étais chez moi, je me rappelle très bien, j'ai regardé le truc.
Ouais, moi pareil. Non, moi j'étais avec des copines.
Vous avez regardé le truc?
Et en mode, on était. Bah, on met on regarde. La télé.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, on a passé la soirée à regarder des trucs sur Johnny. Et je m'en rappelle, à ce moment-là, il y avait genre Secret Story.
Ok.
Et la règle dans Secret Story, c'est qu'on raconte pas ce qui se passe à l'extérieur.
Oui.
Et là, la voix avait passé un message en disant on doit vous l'annoncer, mais Johnny Hallyday est mort.
Et j'étais tous choqués dans la maison.
Et moi, je m'étais dit, mais waouh, c'est. En fait, c'est là où je me suis dit.
C'est une dinguerie.
En fait, limite, le monde, il va changer. Genre, tu sors de Secret Story, il n'y a plus de Johnny
ouais,
sur Terre,
c'est
tu vois.
Ça. Ouais, c'est un monument. Et le pire, c'est que vous savez qu'il est belge. Il est belge, mais le gars, enfin, la France l'a honoré jusqu'au bout. C'était vraiment The Star. Du coup, on va écouter un extrait du discours du président Emmanuel Macron lors de son enterrement.
Johnny était à son public. Johnny était au pays. Parce que Johnny était beaucoup plus qu'un chanteur. C'était la vie. La vie dans ce qu'elle a de souverain, d'éblouissant, de généreux. Et c'était une part de nous-mêmes. C'était une part de la France.
Alors le président Emmanuel Macron dit « Johnny, c'était la vie ».
C'est la vie, ouais.
C'était la vie. Et j'ai pas choisi cet extrait du discours au hasard parce que bah, justement, hein, Johnny, il a croqué la vie à pleines dents, comme on dit. Mais on sait tous que cette vie, elle a été remplie d'excès. Et c'est justement un cancer des poumons qu'il a emporté en décembre 2017. Mais jusqu'au bout, il s'est battu. Jusqu'au bout, il a dit « fuck cancer, fuck la mort ». Sur les réseaux sociaux, il mettait des photos, Laetitia, à chaque fois, hashtag « fuck cancer » et tout. Alors, Leïla, on sait qu'il a eu une vie de fou, mais ce qu'on dit moins en vrai, c'est que cette vie-là, elle a été remplie de problèmes de santé.
Et oui, le king du rock français en a bavé niveau santé, et sa santé, ça a été une obsession pour la presse et pour ses fans qui cherchaient à détecter la moindre faiblesse physique du Elvis français. Et j'ai l'impression que depuis que je suis née, à chaque fois qu'il annonçait une tournée, tout le monde se disait que c'était sa tournée d'adieu, sa tournée de la dernière chance, tu vois.
Ouf, mais tellement. En même temps, c'est vrai que pour une icône comme lui, en vrai, la santé, c'est primordial si on veut continuer à faire des dates.
Ouais, et les tourneurs, ils l'ont bien compris parce que depuis la mort de Michael Jackson, par exemple, donc c'était en 2009, ils obligent les chanteurs à faire des check-ups chez le médecin avant de commencer une tournée. Et en fait, ceux de Johnny, ils n'ont jamais été très positifs et ça a augmenté encore plus toutes les spéculations autour de sa santé.
Ouais, et justement, ses fans étaient habitués à ses allers-retours à l'hôpital. Hein.
On peut dire qu'il a la poisse ou qu'il a de la chance parce qu'il a enchaîné les accidents de voiture, l'alcool, la drogue, un rythme de vie stressant, tout ça en sortant presque indemne. Et il a aussi fait une tentative de suicide en 66 et ça a fait qu'attiser l'anxiété des médias sur sa mort potentielle. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé deux fois dans des journaux que des journaux titrent sur sa mort, le pauvre. La première fois, c'était quand un mec qui s'appelait Smet aussi est mort à l'hôpital de Bobigny. Et la deuxième fois, c'était avec le même mec 10 jours plus tard.
Mais ouais, ce métier va me tuer. Ouais.
Du coup, c'était avec le même mort qui s'appelait Smet à Bobigny. Et dans les années 80 aussi, il a subi une opération des hanches parce qu'il souffre d'arthrose précoce, qui est en soi bénin. Mais en fait, dans la presse People, on l'a dit mourant, on a parlé de cancer des os, on a accusé son entourage de minimiser son état de santé. Et en fait, comme c'est une bête de scène, et ses fans, ils l'ont aussi vu plusieurs fois s'écrouler d'épuisement après ses concerts, quoi. Et ça va aussi avec l'image qu'il a essayé de cultiver un peu toute sa vie de rockstar qui meurt sur scène.
Mais tu sais que ce que tu dis sur la presse, ça me fait trop rire parce que quand il est mort, moi j'étais chez Non Stop People. Et genre, c'était mon premier choc journalistique où c'était genre, c'est vraiment là.
C'est donc arrivé, c'est comme la mort de la reine d'Angleterre, quoi.
Ah ouais, c'est arrivé. Comme le truc où
c'est ça.
T'as tous les contenus qui sont prévus.
Et j'étais dépassée.
Okay, on lance toutes les nécros.
C'est maintenant, c'est là. Qu'est-ce qu'on fait? J'avoue, la panique.
Il la rend pas du tout.
Non, pas du tout. Je t'ai compris.
À vivre. Voilà.
Vraiment un truc que je raconterai à mes enfants, quoi.
Non, mais t'étais là.
Tu l'as vécu en interne. On en parlera après. Si tu veux en parler, il y aura une cellule de crise psychologique. Après, là, il y a un truc qui me dérange quand même parce qu'il était quand même à l'hôpital. On l'a annoncé. La question qui peut se poser, c'est celle du secret médical.
Ouais, et en fait, la question aussi qui peut se poser, c'est savoir si la presse, elle doit se fixer des limites en ce qui concerne l'état de santé des personnes connues ou non. Et c'est compliqué parce qu'en fait, en 2010, le magazine Closer, il avait révélé le cancer de Johnny Hallyday et l'Express avait même publié des extraits de son dossier médical. Et il y a des politiques qui s'étaient indignés et qui avaient dénoncé, je cite, une dérive inacceptable dont le seul but est de faire du sensationnalisme. Et en fait, ils ont même déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale en disant que divulguer les informations privées par la presse porte atteinte aux droits et aux libertés fondamentales de la personne qui en est victime. Mais on n'a jamais eu de suite. Mais en fait, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que le secret médical, il doit être respecté par les professionnels de la santé et pas par les journalistes. Et je peux comprendre qu'en tant que journaliste, on puisse vouloir connaître la vérité parce que c'est notre rôle de la chercher, mais aussi de la révéler. Après, Closer s'est défendu en disant qu'il ne voulait pas être complice entre guillemets des mensonges de l'entourage de Johnny Hallyday, qui affirmait qu'il allait bien et que son cancer était bénin et qu'il se soignait bien, alors que pas du tout quoi.
C'est tellement des snakes. De défauts dans la presse people.
Mais
aussi.
Vraiment.
Ouais. C'est tellement serpent de faire ça, genre. Mais on voulait pas être complice.
C'est comme. Non. Mais c'était pas. Enfin, tous ces métiers-là.
Mais c'est pas paradis.
Dans people, en fait, c'est
horrible. Non, mais
même
c'est horrible.
Même se faire de l'argent sur.
Là, en fait, c'est clairement du moral.
Sens. Ouh, j'arrive pas à dire
sensationnalisme.
Voilà.
Faire du sensationnel.
Après, moi, ce que perso, je comprendrais plus qu'un média publie des informations sur un problème de santé qu'empêcherait par exemple un président d'exercer ses fonctions, plutôt que sur un chanteur qui a le droit au respect de sa vie privée et de sa vie médicale. Et je trouve ça moche en fait d'évoquer la liberté de la presse pour piétiner un peu le droit au respect de la vie privée.
Ben, carrément, c'est vrai que tu sais, quand t'es une célébrité, t'as pas forcément. C'est pas parce que t'es célèbre que tu dois tout donner en fait à tes fans, tu vois. Notamment pour les problèmes de santé ou par exemple les grossesses, les fausses couches et
ouais,
tout.
Ouais, et même dans la vie de tous les jours, des fois, il y a des choses dont on n'a pas envie de parler.
Bah, bien
donc,
sûr.
Donc, c'est la même chose pour eux, quoi.
Ouais, ça me fait penser au décès de. Enfin, aux personnalités publiques qui ont choisi de garder le silence parce que justement, c'était tabou ou juste, t'as juste pas envie d'en parler ou de perdre un contrat, tu vois. Moi, je pense qu'une des. Un des décès qui m'a le plus choqué, c'est la mort de Chadwick Boseman. C'était en 2020.
J'avais tellement chouiné, j'avais tellement pleuré.
Chadwick Boseman, pour ceux qui le savent pas, c'est celui qui jouait.
Dans
Black Panther. C'était l'acteur phare. Et en fait, ça avait choqué les gens parce que déjà il est décédé à 43 ans donc d'un cancer du côlon, et en fait il était connu dans son rôle donc très voilà super héros et tout, et quelques mois avant sa mort les gens s'étaient moqués de sa perte de poids. En fait, il avait grave maigri et les gens étaient là, mais MDR, qu'est-ce qui se passe? Le gars avait juste un cancer tu vois.
Et en plus ça, enfin c'est un rappel entre guillemets pour te dire mais déjà, arrêtez de commenter le physique des gens. Tu vois, on sait pas par quoi ils passent.
Et moi, ça me fait trop penser à Robin dans How I Met. Je sais pas si elle avait caché ou pas son cancer, mais au fil des épisodes, enfin, en tout cas, c'est un truc que j'avais entendu, elle a moins de cheveux, etc. Et je me disais, pareil, ça faisait beaucoup parler. Mm. Et en fait, quand t'apprends plus tard, en plus, la fin de la série, je la trouve un peu triste. Et qu'en plus, elle a ça dans la vraie vie, c'est vraiment genre.
Ah, c'est tellement. Mais c'est triste.
Ouais,
hein.
Ouais, moi, ça m'avait fait ça avec Virgil Abloh.
Ouais, oui, mais de ouf.
Je me suis pris une claque, tu vois.
Mais
je me
tellement.
Suis dit,
ah oui, c'est vrai. Bah, j'allais vous demander si vous pensiez à des célébrités qui avaient caché leur maladie. Mais ouais, t'as raison, Virgil Abloh. Pareil, 43 ans, pareil.
Quarantaine, quoi.
Waouh, franchement, si soudain. Et j'avoue, pour le coup, on s'y attendait pas. Comme quoi, on n'est pas obligé de tout vous dire, d'accord? Voilà. 19h41, direct de La Pluie et le Beau Temps. On retrace la vie de Johnny Hallyday, la superstar du rock, à l'occasion de la sortie de son biopic qui va s'appeler Que je t'aime et qui est prévu pour 2026. On revient dans un instant pour la suite de son histoire, mais en attendant, on va rester dans le thème aussi en musique. Usher, superstar, c'est tout de suite sur Move. This is for you. You, my number one. This is for you. You. My number one. This is for you. You. My number one.
Spotlight. Big stage. 50,000 fans waiting in a way. Bodyguards and limousines. This is the way I see you in my dreams. Paparazzi flash, 100 pictures all of you hanging on my bedroom wall. I'm a kid again, I feel like 13. But I mean, since we fell in love, girl, I've been here.
I've been your groovy baby.
Oh, oh.
Cause you are my
superstar, yeah.
I'm your number one fan, give me your autograph.
My number one. Front row, there I am, jumping and hollering, waving both hands. Would you notice me, little me? Drove 12 hours, girl, just to see your pretty face one more time.
On my ticket, I was first in line.
This is a metaphor to show how I adore.
Superstar, yeah. I'm your number one fan. Give me your autograph.
Autographs.
special. Your love is legendary to me. I never leave your world. Treat you like a diva, girl. You're a wonder.
Usher, superstar à l'instant sur Move.
Tous les mardis
jusqu'à 21h.
Move. La pluie et le beau temps.
19h45, on est toujours sur Move en direct de La pluie et le beau temps. Et c'est toujours l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société. Alors avec Florence et Leïla, aujourd'hui on a voulu revenir sur les quasi 60 ans de carrière de Johnny Hallyday à l'occasion de son biopic Que je t'aime. Le film va sortir en 2026, encore un petit peu de patience. Alors même si je vous présente plus bien évidemment celui qu'on appelait le taulier de son vivant quand même, Johnny détenait le record du monde, le record du nombre de disques vendus pour un chanteur francophone. À votre avis les filles, il a vendu combien de disques dans toute sa carrière?
Vas-y, 1 milliard.
Hein? 1 milliard?
Oui.
Toi, tu dis quoi?
Beaucoup, ça, non?
C'est plus ou moins?
C'est
des mesures super ça.
C'est moins parce qu'elle abuse du bail, mais en vrai, c'est beaucoup.
C'est 580 millions.
500 millions.
500 millions, 580, qui dit mieux, on est aux enchères, c'est comment?
Non, c'est bon. 470.
110.
Oh. Nous, qui avons tout extrapolé.
110, mais je peux vous comprendre. En vrai, j'aurais dit pareil. J'aurais dit une dinguerie.
Bah, ouais.
Bah, on est quand même sur 57 ans. Voilà.
Non, et mais surtout qu'avant, il n'y avait pas de streaming, il n'y avait pas de trucs. Donc, c'est
exactement.
Des disques, tu vois.
C'est, oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Maintenant, deuxième question. Quand je vous dis Johnny, vous pensez à quel titre automatiquement?
Marie.
Ok.
Moi, je te promets.
Je te promets.
Je te promets.
C'est beau. C'est
trop
si beau.
Belle.
Évidemment, évidemment. Et oui, on parle de classiques comme Marie, justement, Leïla.
Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait.
Ou encore Vivre pour le meilleur, bien sûr. Elle est trop belle. Hey, ouais. Ça me fait penser à la Star Academy. Il venait en 2003, il venait chanter
mais
ça
vrai,
et tout.
Moi, je le réécoute pas pareil maintenant. J'aime bien même Allumer le feu. Mais de, un truc bah, hyper
c'est pour ça que j'ai mis le bête derrière. J'étais là genre, wouh, ça va nous mettre un peu
rock.
De...
Wouah,
c'est rock and roll. En tout cas, Vivre pour le meilleur, c'était vraiment, vraiment sa devise. Bien sûr qu'on s'y attendait, mais à l'annonce de sa mort, les fans ont perdu un membre de leur famille, tu vois. Au-delà de la musique, en fait, Johnny, c'était aussi une communauté de fans dans le monde, littéralement, je dis bien littéralement, prêt à s'envoler pour Saint-Barth, parce que c'est le lieu où il est enterré pour se recueillir. Ma sœur habite à Saint-Barth, je suis allée sur sa tombe. Ouais, et je vous jure qu'elle est allumée la nuit.
Ah ouais?
En fait, il y a une guitare illuminée. La nuit, genre en mode ça ne dort jamais et les gens viennent tous les jours.
Ah ouais.
Et juste en face, il y a un petit bar. Et en fait, les gens ils viennent, c'est devenu un truc touristique.
Ouais, limite
donc
un
c'est
pèlerinage.
Tout pour,
ouais.
C'est tout bénéf
c'est comme
pour le bar.
Un
quoi.
Village de France avec sa statue, je sais plus.
Je sais pas, mais semble. C'est possible. Hein. Je peux pas te dire. Je sais pas. Mais en tout cas, Saint-Barth, c'est vraiment la tombe est belle et tu peux pas la louper.
Okay.
Elle est toute blanche dans un cimetière blanc à côté de la plage et tout. J'avoue, il repose en paix. Il existe aussi des coco. Pour le coup. Pour le coup. Ah, c'est paisible, hein, je te le dis moi. Et c'est vraiment mignon en plus, hein, pour le coup. En tout cas, ça c'était pour l'instant morbide. Mais sachez qu'il existe aussi des concours de sosie.
Ah,
et d'ailleurs en France, il y en a plein. Il y a plein de sosies, mais celui qu'on connaît bien, en tout cas pour ma part, c'est Johnny Vegas. Vous l'avez déjà entendu ou pas?
Oui.
Je vous propose d'écouter ses fans à la fin d'un concert, d'accord? Écoutez bien.
Je vais frimer un peu avec Johnny là, c'est génial. Super.
Mais si c'est pas le vrai, c'est le vrai ou c'est pas le vrai dans votre tête?
Dans ma tête, c'est le vrai, vu qu'il fait tout pareil, c'est le vrai pour moi.
D'accord.
Voilà.
Extraordinaire. Extraordinaire, ressemblance parfaite.
J'ai l'impression d'avoir assisté à un spectacle de qui là ce soir?
De Johnny.
Johnny.
Le Johnny. Le Johnny. Notre Johnny.
C'est pas hyper bizarre.
Johnny.
Oh Johnny. Oh Johnny. C'est pas hyper chelou. C'est genre en fait.
Je viens de regarder sur internet une Johnny sur l'archive.
Ça fait Johnny Vegas. Johnny Vegas. Allez-y tout de suite s'il vous plaît. Dommage on n'a pas leur retour en direct. Je suis mort. Hey, les gars ils sont
ah
là.
Non, j'ai menti, j'ai menti. La première image.
C'est grave le smet là.
C'est le smet de Bobigny.
C'est Johnny. Johnny Hallyday. Mais on en pense quoi de ces fans là qui sont prêts à tout là, qui pensent que c'est le vrai Johnny. On en pense quoi?
Bah écoutez, si ça vous fait plaisir de voir quelqu'un qui fait des playbacks de Johnny.
En vrai moi je, c'est pas moi,
moi ça
qui
pourrait
dit,
me faire rire.
Moi j'entends souvent les gens dire que ça fait beauf.
Ouais. C'est vrai. Et c'est une excellente transition pour toi Flo. Parce que dans l'imaginaire collectif, on se dit souvent qu'il est écouté par des beaufs, le pauvre Johnny. Johnny, oh, Johnny.
Johnny. Certains ont l'envie d'avoir envie, mais te fuient parce qu'ils se considèrent trop bien pour faire partie des beaufs qui t'écoutent. Et en vrai, c'est hyper navrant ce mépris de classe envers les beaufs, et ça fait 50 ans que ça dure. Alors, on va voir ensemble pourquoi on en veut autant à ces gros messieurs en Marcel.
C'est parti hein.
Donc du coup, pour poser le contexte, on est dans les années 70. Il y a Cabu, c'est un jeune dessinateur qui d'ailleurs s'est fait tuer dans les attentats de Charlie Hebdo. Oh. Donc à l'époque, il a pensé la figure du beauf pour les journaux satiriques. Et pour ça, il s'est inspiré de son beau-frère, d'où la contraction en beauf.
Ah, et c'est vrai que ce personnage incarne tout ce qu'il déteste.
Ah ouais, non mais c'est un gars avec lequel t'as pas vraiment envie d'être ami. Il est raciste, il est misogyne, c'est vraiment le réac de base qui se remet jamais en question et qui adore l'armée, les centrales nucléaires, tout ça, tout ça.
Et,
et du coup, avec son esthétique, on capte très vite que c'est un ouvrier. Par exemple, il a la fameuse moustache type acteur porno, qui est un attribut qu'on associé à une certaine France populaire, comme on pourrait le faire avec la pétanque.
La pétanque.
Et à ce moment-là, on remarque déjà le mépris, en fait, puisque Cabu, lui, il se situe plutôt dans la partie de la gauche intellectuelle, un peu tristoun post-68.
Et ça aussi, ça fait écho aux beaufs, donc BOF, les beurs, œufs, fromage. Ouais. Explique-nous.
Donc eux, c'était les crémiers sans scrupules qui, pendant du coup la Seconde Guerre mondiale, s'enrichissaient sur le marché noir. Bref, pas du tout valorisant non plus. Et aujourd'hui, c'est vrai que la figure du beauf, elle a évolué, mais pas tant non plus. C'est-à-dire que c'est toujours souvent un homme déjà qui est franchouillard quoi. Et ça reste un gars dont on se moque parce qu'il a pas les codes, etc. Vous les filles, est-ce que vous direz que vous êtes des beaufs?
Mais pose des... Mais c'est quelle question? Non mais
je sais pas.
C'est quelle question? Non.
Non, pas particulièrement.
Je ne me reconnais pas dans ce... Dans cette catégorie de personnages.
Ah ouais. Je ne pense pas être une beauf. Après... Je sais pas, est-ce que aimer les trucs un peu clichés, c'est être une beauf?
Mais moi,
c'est,
j'adore le kitsch.
Parce que moi, les trucs un peu kitsch, des fois, ça me fait vachement rire.
Genre les cartes postales avec trois dauphins, tu vois.
Ah, moi, les aimants de vacances, tu vois. Genre, ouais.
Mais j'en achète à chaque voyage, ça fait pas de moi une beauf.
Bah, tu fais partie du club.
Bah, let's be a
t'es
beauf
un
alors.
Type de beauf, je pense, tu vois.
Peut-être.
De toute façon, on est tous le beauf de quelqu'un.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense pas qu'on pense à nous quand on dit beauf, mais voilà, il paraît qu'on est tous le beauf de quelqu'un. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'on a tous notre propre définition, même s'il y a un imaginaire collectif. Vous, c'est, il ressemble à quoi votre beauf?
Moi, le beauf.
La stache, le Marcel, t'as capté? Il boit de la bière. Et
la binche.
La binche. Et il a un accent, il est relou d'ouf. Je veux pas dire trop dire d'où il vient et tout, t'as vu, parce que bon.
Est-ce que c'est un accent picard?
Je dirais, on a écouté dans toute la France. Je ne veux pas me mettre les picards à dos, ni les gens du Nord.
Ah, il ressemble à quoi?
Ouais, moi un beauf, je dirais c'est quelqu'un de lourd, tu vois, genre qui fait des blagues lourdes,
salaces,
qui des fois comprend rien, mais se croit un peu,
tu sais, d'être ça, miskin.
Ouais, voilà, se croit un peu expert de tous les sujets.
C'est ça.
Tu sais, en mode, mais moi la solution, ça aurait été ça. Ouais. Tu vois, comme si tout était simple.
C'est un
ça
lourdeau.
Pour moi, c'est un délire de gros beauf.
Ouais. Et ouais, c'est trop marrant parce que le mien, il s'éloigne un peu du coup de l'ouvrier Marcel, stage de l'époque et tout. Mais moi, c'est plus le mec qui a été président du BDE, qui va chanter les lacs du Connemara.
Et les sardines.
Plus, il adore les soirées déguisées parce qu'il va pouvoir mettre son costume de beat. Genre, c'est trop pour la déco.
Mais tellement, je l'avais oublié lui.
Mais ça, c'est le beauf jeune. C'est le beauf de l'école.
De l'école de commerce.
Je sais pas.
Ah, je le vois.
De l'école ou de la fac.
Oui, et bien vu.
Et moi, je suis certaine, tu vois, que ce mec, justement, il se trouve génial. Donc, est-ce qu'un beauf se rend compte qu'il est beauf? Et justement, la réponse... non, mais je pense que c'est surtout une question bête dans le sens où c'est un jugement, en fait. Et le problème, ça se situe dans les yeux de celui qui insulte. Parce qu'en fait, insulter quelqu'un de beauf, c'est se sentir supérieur à lui et vouloir s'en distinguer, finalement.
Bon, à quoi qu'il en soit, à tous les gens qu'on a insultés de beauf un jour, Béliève, croyant vos rêves, il y a une revanche du beauf, Flo, c'est ça ? Béliève, croyant vos rêves.
Par contre, elle est ni économique ni politique, mais plutôt dans notre perception. Le truc, c'est qu'on a de plus en plus de tendresse avec cette figure, notamment grâce à la pop culture et des films mythiques comme Les Tuches, par exemple. D'ailleurs, c'est un scandale, moi, je l'ai jamais vu.
Je te rejoins dans la team, ma petite Flo.
Moi, j'ai vu Les Tuches.
Ah, ouais. Et du coup, t'as de la tendresse pour eux ?
Le 1, oui.
Ah, ok.
Enfin, bon, genre, je dis. En fait, je pense que ce qui te donne de la tendresse pour. Enfin, ce qui te fait trop rire et tout, c'est que tu reconnais des situations que t'as pu observer dans la vraie vie.
Ouais.
Et vu qu'il y a ce délire de c'est une histoire vraie, c'est des. De base, c'est la même histoire, quoi. C'est des gens qui ont gagné au loto alors qu'ils étaient super précaires. Donc, super intéressant.
Et aussi, résultat, tu vois, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on pouvait prendre pour. Enfin, ce qu'on pouvait prendre pour des valeurs rétrogrades à la base, c'est vu maintenant comme une forme de profondeur d'esprit limite.
Que tu veux dire en mode, je généralise, mais les pauvres, ils ont plus de morale, en fait.
Ouais, et clairement, on passe du coup du mépris à la fétichisation. Et je sais pas, vous avez sûrement remarqué, mais l'esprit beauf, c'est devenu cool. On le voit grave esthétiquement, par exemple, et je trouve ça sexy, hein, c'est pas non plus un jugement, mais t'as plein de bourgeois qui s'amusent à s'approprier le style plouc en se faisant des mulets ou en mettant des fringues désuètes, tu vois.
Ouais, ou des t-shirts, tu sais, genre Ricard.
Ouais, exactement.
Il y en a plein sur TikTok, là, qui font des OOTD, là.
Mais même juste s'habiller en Lidl, les trucs comme ça, tu vois. Sauf qu'en fait, en réalité, c'est assez problématique. Pour eux, ça les rend authentiques, tu vois. Mais un bourgeois qui s'habille en beauf, ça restera un bourgeois qui s'habille en beauf, dont on se moquera pas, et pas un beauf qui est beauf, dont on se moquera. Donc, je pense, vous voyez ce que je veux dire.
C'est
est-ce que vous captez
ton bail, là.
Non, mais en gros, c'est des gens qui se déguisent et ce sera jamais.
Oui, en gros, ils se déguisent en pauvres, tu vois.
Ouais, voilà.
Je vois ce que tu veux.
Dans ce cas, moi, je garde tous mes privilèges, mais...
Ouais, c'est ça.
Mais je m'amuse à faire le beauf, et puis quand ça sera plus à la mode, c'est pas grave, moi, je vais revenir à mes habits de mec super riche, et je vais remépriser les gens qui les portent.
Et puis quand c'est sur toi, c'est pas pareil aussi.
Oui, voilà.
Du coup, je valide pas. Je valide pas.
Arrêtez de jouer les beaufs alors que vous êtes pas des beaufs.
D'ailleurs, en parlant de beaufs, en vrai, ça peut être une insulte pour des gens.
Il y a
deux autrices féministes qui ont décidé de s'emparer de ces termes qu'on a tendance justement à utiliser pour mépriser les gens, voire même les marginaliser. Et beauf, ça fait partie de cette catégorie d'insultes qui marginalise une certaine partie de la population.
Après, c'est hyper dur d'insulter sans discriminer.
C'est hyper dur d'insulter sans discriminer. Et du coup, elles ont sorti un livre qui s'appelle Garce, hystérique et autres joyeusetés. C'est Alice Falzer et Laetitia Abadestieux. Et elle décortique en fait les gros mots les plus populaires. Donc il y a pétasse, pute, beauf et j'en passe. Et elles répondent à la question en fait, que veulent vraiment dire nos insultes? Et elles proposent des alternatives pour insulter sans discriminer. C'est un peu compliqué, mais en fait l'idée c'est de comprendre l'étymologie, la définition profonde de cette insulte pour ne plus la dire.
En vrai, c'est
et tu peux la remplacer par autre chose. Franchement,
c'est
grave.
Et du coup, faut juste insulter les gens de merde.
Ouais, c'est ça. En
c'est tiré de rien, ça, pour moi.
C'était un peu ça.
Voilà. C'est quoi vos insultes pour pas discriminer, vous?
Je sais pas faire. Non, moi, c'est trop la rue.
C'est hyper dur, en vrai. C'est dur de pas discriminer en insultant.
J'avais
enfoiré.
Vu genre un truc. Non, j'avais. Il y avait aussi dans le livre.
Ah, il y avait Enfoiré.
Ouais, il y avait Enfoiré. Ah. Ouais. Et du coup, il y avait des trucs du style sac à benne, sac à poubelle. Mais tu sais, c'est pas trop méchant, mais ça peut, tu vois.
Mais je sais pas, moi je dis tout le temps espèce de naze, tu vois.
Ouais, moi
naze, c'est bien.
Ouais, mais il y a une insulte, moi, que je trouve qui pique, c'est rigolote, voilà. Genre, en fait, t'es tellement éclatée.
Tu sais, c'est
que
quoi qui m'énerve, c'est genre. Tu vois, par exemple. Bouffonne, je trouve ça trop méchant.
Ça, c'est méprisant de
ouais,
fou.
Ouais, mais
ça
vient de quelque part, je pense.
Bouffon du roi, je pense. Genre, t'es vraiment le clown de la situation, quoi.
Moi, je pense aussi. C'est très méprisant.
Réfléchissons ensemble comment insulter sans discriminer.
On vous le redit, peut-être dans une prochaine émission sur les insultes. 58 et vous êtes toujours sur Move en direct de votre hebdo qui débriefe toute l'actu, culture et société. On revient dans un instant. La suite du son, c'est Milena Leblanc. Dans cette chanson, elle retrace la vie d'une personnalité célèbre dans son nouveau single qui est sorti le 15 mai dernier. On reste toujours dans le thème. Milena Leblanc, Song About an Actor, c'est tout de suite sur Move.
Un jour, tu m'as dit, viens chez moi. Alors j'ai pensé, ça y est, je suis sauvée. We walk in the dark, it's a cold and rainy night. It's exactly what I fantasize.
out fear world looking at me. Am I that weird? Calling you my dear.